Philosophie du vivant, 28 février 1984, Père Philippe Saint-Joseph.
La philosophie du vivant dans la vie de l'esprit. Alors il faut d'abord montrer la différence qui existe entre le point de vue de l'imagination, qui est le sommet de notre vie sensible, avec l'apparition de quelque chose d'autre, qui est la vie de l'esprit, c'est-à-dire la vie de l'intelligence. Je prends ici intelligence au sens très fort, au sens du nous. On reviendra peut-être sur cette question-là, parce qu'il y a une question de précision de terme qui est quand même très importante. Il faudrait regarder à travers toute l'histoire de la philosophie occidentale comment on a appelé successivement l'intelligence. Les Grecs ont le mot nous. Et dans le mot nous, du reste, ils mettent des significations assez diverses. Puis alors, en latin, on a traduit intellectus, intelligentsia, puis on a dit ratio aussi. Puis en français, on a parlé de l'entendement. Et c'est toujours intéressant, du reste, de regarder dans les diverses langues comment, de fait, le nous grec a été traduit. Alors, dans saint Thomas, c'est très net, à la suite d'Aristote, du reste, il y a intellectus, ratio. Alors, intellectus représente le point de vue du nous et de l'intelligence capable de juger, de discerner. Et la ratio, c'est notre manière d'être intelligent. La manière humaine d'être intelligent, c'est d'être rationnel. Parce que nous sommes les derniers dans l'intelligence. Un ange n'aimerait pas beaucoup qu'on lui dise qu'il est rationnel. Ce serait la pire des injures, vous voyez. Dites pas ça à votre ange gardien. Hein. Je te comprends, tu es tellement rationnel. Bon, c'est la raison, c'est le mode humain selon lequel nous connaissons. Donc c'est le raisonnement. Alors, c'est au service de l'intellectus, c'est au service de l'intelligence. L'intelligence, lire de l'intérieur. Intus legere, et par là discerner, saisir, connaître intuitivement, et ainsi de suite, tout le type de connaissances particulières. Bon. Le premier moment qu'il faut discerner au point de vue de la philosophie du vivant, c'est le passage de ce que représente le point de vue de l'imagination une image implique toujours une représentation. Vous imaginez le champ, vous voyez ça tout de suite, c'est une représentation. Une représentation nous donne justement l'image, l'icône, l'image, la représentation et une présence, par le fait même dans la représentation, il y a une certaine présence, une présence imaginative, une présence d'une représentation, d'une quelque chose qui est présent. Dès que nous entrons dans le domaine de la signification, nous entrons dans le domaine de l'intelligence. Nous sommes au-delà de l'imagination. Au sens très 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 fort, nous sommes au-delà de l'imagination, nous sommes dans l'ordre de la signification. Et la signification, à ceci très caractéristique, c'est qu'elle peut être universelle. tandis que la représentation n'est jamais universelle. Vous voyez ? Il faut bien saisir ces différents moments de la connaissance. Représentation dans la sensation. Dans la sensation, il n'y a pas de représentation. Il peut y avoir une représentation, mais la sensation comme telle est avant la représentation. Quand nous sentons quelque chose, sentir quelque chose, la représentation, puis la signification. Il y a de fait ces différents aspects de la connaissance. Et quel est le premier moment où on découvre justement ce point de vue de l'intelligence ? C'est dans cette attitude de réceptivité. L'intelligence a d'abord cette faculté de pâtir. Elle reçoit, recevoir. Pâtir, recevoir. C'est le premier moment de la vie de l'intelligence. Elle pâtit et elle reçoit. Et Aristote souligne très fort ce parallélisme entre le paskein de l'intelligence et le paskein de la sensation. On pâtit, le fait de pâtir. Je crois que c'est très important de saisir que ce premier moment de l'intelligence, c'est de pâtir. L'intelligence se laisse influencer. Elle se laisse déterminer par quelque chose qui est autre qu'elle. L'autre, la réalité existante, a cette influence qui fait pâtir l'intelligence. Il y a un premier acte d'intelligence qui, justement, est ce fait de recevoir. Aristote l'appelle l'upolepsis. Et au fond, saint Thomas n'a pas beaucoup gardé ça. Mais c'est intéressant, c'est l'upolepsis. C'est la réceptivité fondamentale de l'intelligence. L'intelligence reçoit, se laisse prendre. Elle se laisse influencer par quelque chose. Donc, on connaît en pâtissant, en se laissant transformer par l'autre. Ce premier moment de vie de l'intelligence va impliquer le fait que l'intelligence, en recevant, va réagir aussi. Il y a donc passe, pâtir et action. Et l'intelligence va assimiler. Elle va devenir quelque chose qu'elle n'est pas elle-même. Elle va devenir une détermination première. La détermination, la forme. Elle devient une forme nouvelle qui, elle, a justement une signification. Je deviens telle qualité, telle couleur. Je la pense, hein. Je la reçois, je pâtis. Et on précisera ensuite que cette détermination et cette forme, c'est justement ce qui détermine en premier lieu l'intelligence. On appellera ça fluidité. C'est comme ça que saint Thomas l'appelle, à la suite d'Aristote, du reste. Mais chez Aristote, c'est moins précis. Hein. Je ne suis pas ici le dianima d'Aristote. Hein. Le dianima d'Aristote est très intéressant. Le livre 3 du dianima est très très intéressant, mais je ne le suis pas ici directement. Je m'inspire de lui, si vous voulez. J'essaie de repenser comment nous pouvons découvrir au plan philosophique ces diverses activités de l'âme, découvrir ce passage du domaine de l'imagination au domaine de l'intelligence, qui pour Aristote a une très très grande importance. Parce qu'Aristote reconnaît que des quantités de philosophes confondent imagination et intelligence. Il y a une confusion entre les deux. S'il y a une confusion entre imagination et intelligence, on demeure toujours dans l'ordre de l'imagination. Et c'est pour ça qu'Aristote dit que la plupart des hommes demeurent dans l'imaginaire. Et c'est pas propre à notre culture d'aujourd'hui, mais c'est que propre déjà très anciennement. C'est que la plupart des hommes demeurent dans l'imaginaire. Manent in sensu. Donc ils demeurent dans leur sens, ils demeurent dans l'imaginaire. Et il faut faire cet effort, ça exige un effort, de s'éveiller à la vie de l'intelligence. Et s'éveiller à la vie de l'intelligence, c'est avoir cette attitude de réceptivité. L'imagination n'a pas du tout une attitude de réceptivité, elle a une attitude de mouvement. On n'est pas réceptif quand on est en mouvement. Parce que quand on est en mouvement, on passe de la puissance à l'acte, on agit. Alors l'imagination est la faculté qui se développe dans le mouvement. Très intéressant par rapport à la dialectique. Toujours. Tout mouvement implique deux contraires. Et un sujet. C'est pour ça que tout mouvement implique trois termes. Vous voyez donc le mouvement de, la, de l'imagination. Le propre de l'imagination, c'est ce mouvement incessant. On ne s'arrête pas dans l'imagination. C'est un mouvement incessant. Dès que l'intelligence apparaît, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une détermination fixe. C'est le passage du mouvement à un certain repos. C'est encore une manière de saisir ce dépassement d'imagination vers le point de vue de l'intelligence, cette réceptivité. C'est juste l'inverse de ce qu'on représente ce mouvement perpétuel de l'imagination. Et on est capable de recevoir et de se laisser déterminer par la forme, l'aïdos, la cuidité. On est déterminé par la cuidité. Vous l'avez vu ce matin, donc ce n'est pas la peine que je vous l'explique. La cuidité, on se laisse influencer par les déterminations des réalités. Voilà ce fait de recevoir. Je ne vois pas plus que ça. C'est ce qu'on va appeler ensuite, cette première opération d'intelligence, on va l'appeler appréhension. Je crois qu'on peut l'appeler appréhension. C'est-à-dire que l'intelligence qui appréhende, qui saisit, c'est l'intelligence dans sa capacité de saisir. Elle saisit des déterminations, elle saisit des formes. Elle saisit la réalité qui est extérieure à elle, et elle la saisit, je constate simplement. On verra ensuite comment elle la saisit. Ici, je constate. C'est que, de fait, nos mots ont une signification. Quand je pense à telle ou telle réalité, cette réalité que j'évoque en moi, dans ma pensée, a une signification. Signifie quelque chose. Donc, cette appréhension et cette réceptivité a un mode d'assimilation. Je m'assimile quelque chose qui n'était pas présent à moi antérieurement. Phénomène analogue à l'aliment. L'aliment, vous l'assimilez. Et l'aliment est quelque chose d'autre à vous avant l'assimilation. Et quand vous l'assimilez, il devient votre propre chair, votre propre sang. Il vient dans l'intelligence, il y a quelque chose de semblable. C'est qu'une réalité extérieure, une forme, une détermination, n'importe quoi, toutes les réalités que je vois, je suis capable de les recevoir. Je les reçois selon un mode différent qu'elles sont dans la réalité, puisque je les reçois en moi. Et en les recevant en moi, c'est ça qu'on appelle une assimilation intentionnelle. L'intentionnalité apparaît dès le domaine sensible, L'intentionnalité apparaît dans le domaine imaginatif, l'intentionnel apparaît dans le domaine intelligible. Vous avez donc trois niveaux d'intentionnalité qu'il ne faut jamais oublier. Et deux modalités, une intentionnalité du côté de la connaissance, une intentionnalité du côté affectif. Donc, il faut bien comprendre que le domaine de l'intentionnalité est très vaste. Alors, je le souligne ici, c'est que cette assimilation est une assimilation intentionnelle. Je deviens cette détermination et je la porte en moi. Et c'est dans ce sens-là que je peux dire assimilation intentionnelle. Puis, nous voyons comment l'intelligence peut discerner, juger. Que cette première opération, elle est simple, se résit comme une saisie. Saisie, ça, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je saisis une forme, je saisis une détermination. Puis, mon intelligence va composer et va discerner. C'est le propre du jugement. Alors, c'est une intelligence qui compose. C'est une intelligence qui divise. Tandis que dans l'assimilation, l'intelligence tendait vers quelque chose de plus en plus simple. C'est, j'allais dire, l'appétit le plus foncier de l'intelligence qui veut saisir directement telle ou telle forme. Donc c'est quelque chose de simple, c'est une tendance directe de l'intelligence vers la réalité qu'elle veut connaître. Tandis qu'au contraire, dans ce second moment de discernement et de juger, l'intelligence compose, l'intelligence divise. Voyez, il y a deux choses tout à fait différentes. C'est même très étonnant de voir ces deux moments de la vie de l'intelligence que je peux saisir assez facilement. Une attitude de réceptivité, une attitude beaucoup plus active, où je discerne. Où je suis capable de voir que ce que j'avais dit avant, peut-être n'est pas tout à fait ça. Quand je dis Pierre est intelligent, l'intelligence, je l'ai saisie au niveau de la réceptivité, je saisis cette détermination fondamentale qu'un être qui est près de moi, qui est moi-même, est capable d'avoir. Et je saisis ce que représente cette opération intellectuelle qui consiste à appréhender, à saisir. Tandis qu'au contraire, lorsque je suis dans l'ordre du jugement, il y a toujours une composition de division. Pierre est intelligent, Pierre n'est pas intelligent. Oui, alors il y a une division. Donc, il y a une attitude réflexive. Une attitude réflexive de l'intelligence qui discerne, qui se dresse la route, qui trace la route. Puis troisième moment, le raisonnement. Le raisonnement, toute espèce de raisonnement, qui peut aboutir à la science. Le raisonnement vient au service du discernement et du fait de pâtir. Ce n'est pas un ordre qui fait que le fait de recevoir, le fait de discerner, là on voit assez bien l'ordre qui peut exister entre les deux. Mais vis-à-vis du raisonnement, on ne le voit plus du tout. Il y a quelque chose de nouveau qui est l'activité de l'intelligence. L'intelligence se développe elle-même. Il y a un processus. Il y a un processus de l'intelligence qui veut se développer elle-même, qui se développe elle-même à partir de ce qu'elle possède. Il y a un progrès, si vous voulez, dans le raisonnement. On peut assez facilement établir cette analogie avec les opérations de la vie du tritive. C'est très curieux. Et ça doit avoir quelques petites relations intéressantes. Dans la vie nutritive, il y a la nutrition. Il y a l'augmentation. Et puis, il y a la mort. Pardon, il y a la procréation et la mort. De fait, dans le développement de la vie végétative, nous l'avons vu. Alors, vous voyez les analogies qu'on peut faire entre la nutrition et le premier acte de l'intelligence, recevoir. Il y a un mode d'assimilation. Mais toute la différence, c'est que le mode d'assimilation intellectuelle est intentionnel, tandis que le mode d'assimilation au niveau de la vie végétative ne l'est pas du tout. C'est pas la même chose du tout de sentir l'odeur des petits pains frais et de les manger. Pour certaines personnes, c'est la même chose. Mais normalement, c'est pas la même chose. Parce que d'un côté, vous avez uniquement quelque chose d'intentionnel, l'odeur, et de l'autre côté, vous en nourrissez. La nutrition au niveau végétatif est une nutrition qui implique la destruction de l'aliment. Alors qu'au niveau proprement intellectuel, l'assimilation qui se fait par cette attitude de réceptivité, cette assimilation n'implique pas la destruction. C'est une assimilation intentionnelle. Qui dit intentionnelle dit que moi je suis changé, mais que la réalité que je connais n'est pas changée. Tandis qu'au travers, l'aliment est changé. Alors là, on est en face d'une assimilation intentionnelle qui fait que je suis moi-même changé, puisque j'assimile cette forme qui est autre que moi, j'assimile cette forme, je suis changé moi, mais la réalité que je vois n'est pas changée. Quand vous regardez quelqu'un, c'est ce qui se passe. Il peut rougir, évidemment, il en rougit le traître, hein, mais ça c'est tout à fait extrinsèque, c'est pas à cause du tout que je le regarde, c'est pas mon regard qui vient sur une mauvaise œuvre, enfin, ça c'est quelque chose qui peut être particulièrement mauvais. Mais enfin, en réalité, la connaissance ne modifie pas l'autre. La connaissance a un respect vis-à-vis de l'autre, ce qui est très intéressant à voir. C'est la vie végétative qui est en lutte. Vous voyez, quand on dit tout le temps, la vie implique la lutte. C'est vrai au niveau de la vie végétative. La preuve, c'est quand vous mangez, vous êtes vous-même quelqu'un qui détruit la vie. C'est pour ça que manger est un certain travail. Vous modifiez et vous transformez. C'est un certain travail. Tandis qu'au contraire, la connaissance n'est pas un travail. Vous ne modifiez pas la matière. Vous êtes modifié par l'autre. C'est très curieux. La connaissance, tout de suite, dès le point de départ, elle est comme ça. Tandis qu'au contraire, la nutrition, pas du tout. La nutrition implique la destruction. Faut bien. On tue le petit lapin. Il faut le tuer avant de manger. Normalement. Il n'y a que le bois qu'il prend vivant, mais après il le tue. Donc c'est retardé tout simplement. Alors, l'augmentation, la croissance, elle est analogue au raisonnement. Et la procréation est analogue au jugement positif. Et la mort, analogue au mouvement de division et de négation. C'est quand même très curieux de voir ces analogies. Comme si on touchait là à quelque chose de très très fondamental à la vie. C'est pour ça que c'est utile d'y réfléchir. On touche là quelque chose de très fondamental à la vie. La vie implique assimilation, la vie implique croissance, la vie, croissance d'ordre d'extension, et la vie implique un discernement qui implique une séparation et qui peut impliquer aussi une destruction. Le jugement est un discernement, le jugement positif, et le jugement négatif est une destruction. Ceci n'est pas une certaine mort, la négation. C'est une mort intentionnelle, mais c'est une mort, puisque je rejette. Oui. Donc, il y a quelque chose de semblable qu'on doit regarder entre la vie végétative et la vie intellectuelle. C'est très curieux. Ce sont les deux extrêmes de notre vie, n'est-ce pas ? Et il y a un parallélisme entre les deux. Alors, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que la vie intellectuelle va de fait y avoir un ordre dans ces trois opérations. Le raisonnement est pour le jugement. Et le fait de recevoir, c'est pour le discernement et le jugement. Autrement, je resterais dans l'anarchie. Donc, qu'est-ce qui est la ligne de crête ? C'est le jugement. C'est là où je touche la perfection de ma vie intellectuelle. C'est dans le jugement. Tandis qu'au contraire, le point de vue de la nutrition, c'est élémentaire, et le point de vue de la croissance, c'est encore quelque chose qui demande d'aller plus loin. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit du jugement, je suis en présence d'un acte qui s'impose, qui peut être un absolu. Il y a un discernement qui s'impose et qui peut être un certain absolu. Je me donne à moi-même cet objectif pour discerner exactement ce qu'il y en est. Donc, il y a ce parallélisme. On va maintenant entrer. Ça, c'est un aspect descriptif qu'on peut tous découvrir. Notre vie intellectuelle se développe de cette manière-là. J'ai une attitude de réceptivité, j'ai une attitude de jugement, j'ai une attitude de raisonnement. Vous allez me dire, mais l'intuition, c'est toujours l'intuition à laquelle on revient. Tu vois. L'intuition, est-ce que ça se situe là ? La vie intellectuelle, pour moi, c'est uniquement des intuitions. C'est un feu d'artifice du matin jusqu'au soir. J'ai des intuitions constantes, mais ça va n'importe comment. Ça va vraiment aussi des intuitions. C'est vrai. Alors, où est-ce que vous mettez l'intuition ? Est-ce que c'est la réceptivité ? Est-ce que c'est le discernement ? Est-ce que c'est le raisonnement ? Là, je suis en face d'opérations tout à fait typiques de la vie d'intelligence. Je peux ajouter, alors c'est peut-être ça qu'il faut faire tout de suite, je peux ajouter d'autres activités qui sont moins typiques et qui sont en relation avec différents aspects de ma vie tout court. Si la vie de l'intelligence domine toutes les autres vies, tous les autres degrés de vie, si c'est vraiment la vie intellectuelle qui donne le discernement le plus profond, les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance, pas du côté de l'affectivité, on le verra ça. C'est du côté de la connaissance, donc les structures se prennent du côté de la connaissance. C'est l'intelligence qui donne les structures, et c'est pour ça que le point de départ de la vie humaine, la vie végétative, et le sommet de la vie humaine, la vie intellectuelle, se touchent. C'est très curieux. L'alpha et l'oméga. Et on peut là saisir quelque chose de particulièrement intéressant pour nous. Alors, l'intuition. Je le mettrai ensuite. Je suis obligé aujourd'hui. Bergson en a parlé. Je suis bien obligé de parler de l'intuition. Pour ou contre, hein. Est-ce qu'il y a une intuition ? Et puis il y a un jugement affectif. Par comme naturalité. Un jugement affectif. Je mettrai assez volontiers à la suite de cette structure. Recevoir, discerner, raisonner. Tous les trois, tous, plus ou moins poussés. Je mettrais assez volontiers, pour perfectionner cette vie de l'intelligence, que cette vie de l'intelligence peut se développer par l'intuition, ou la vie de l'intelligence peut naître dans une intuition. Ça, c'est vrai. Certaines personnes commencent à être intelligentes à partir d'une intuition. Conversion de leur intelligence subito, elle dit, tiens, j'avais jamais pensé. Et c'est vrai qu'il y a des quantités de personnes qui ne pensent jamais à leur pensée. Il faut leur faire faire de la philosophie pour qu'ils commencent à réfléchir sur ces choses qu'ils portent en elles, sur lesquelles ils n'ont jamais pensé. C'est pour ça que la philosophie, c'est penser à ce que tous les autres, à toutes les réalités dont les autres ne pensent pas. C'est penser à cette chose extraordinaire, merveilleuse, qui est cette possibilité que j'ai de m'évader, de penser au-delà de tout ce que. De tout ce qu'on veut, et quelqu'un me condamne, j'ai la possibilité de le condamner. Et, ah si c'est ça, très bien, j'ai compris. Et tu dois regarder, c'est encore pire. Alors on voit très bien qu'on peut, on a cette possibilité. Alors je crois qu'on peut dire qu'il faut ajouter l'intuition. Alors l'intuition par rapport à ces trois opérations d'intelligence, c'est un jugement, l'intuition. Mais c'est un jugement dans lequel le point de vue de l'acte et de la réceptivité vont en quelque sorte l'emporter. Très curieux ça. Dans l'intuition, l'appréhension a une place primordiale. Le jugement est présent, mais l'appréhension a une place primordiale. Alors c'est comme une récupération. C'est comme une récupération de la saisie et du recevoir dans le jugement. Je crois que c'est ça l'intuition. Et parallèlement, le jugement affectif, c'est l'intelligence liée à l'amour. L'intelligence liée à l'amour se développe dans une affectivité. Et alors, je le situe là parce que c'est quand même très important. Je crois que c'est très important pour nous de voir que cette intelligence affective peut se réaliser dans un jugement de cité. Nous sommes là en présence de deux développements de l'intelligence. L'intuition, c'est à l'intérieur du jugement. Une reprise de la forme, une reprise de la relation. C'est pas un acte simple, c'est pas un jugement pur, très curieux. Et puis le point de vue du jugement affectif, c'est le point de vue de l'amour à l'intérieur du jugement, et c'est l'amour qui l'emporte sur le jugement. Et je mettrai en troisième moment le mouvement dialectique. Parce que de fait, aujourd'hui, je suis bien obligé de parler de la dialectique. C'est impossible autrement. Mais ça fait partie de la vie de l'intelligence. Donc je mettrai les trois. Intuition, jugement de connaissance, et puis jugement, le point de vue dialectique. Le jugement part comme naturalité, qui est un jugement affectif. Et puis le jugement dialectique, le raisonnement dialectique, le mouvement dialectique. Et dans le mouvement dialectique, c'est le raisonnement qui va l'emporter. Vous voyez, cette chose curieuse, on va y revenir, parce que je vais en profiter, parce que de fait, le cours de critique ne se fait pas beaucoup, je crois que c'est quand même bon de faire là quelques aspects critiques pour entrer un peu plus avant dans ces opérations de la vie de l'intelligence. C'est quand même tellement important d'avoir un peu une vision un peu nette, parce que sur ce que représente cette vie de l'intelligence. Alors, je la regarde ici, au point de vue d'abord, un peu descriptif. Vous voyez ce que je fais avec vous. Je vois recevoir l'aspect discernement, l'aspect raisonnement. Voilà les trois actes élémentaires. Et puis, j'ajoute qu'il y a une activité intuitive qu'il bat les montagnes. Il y a une activité de jugement par comme naturalité et il y a un mouvement dialectique. Et je crois que ces trois aspects viennent s'ajouter et nous devons les regarder. Alors, essayons de comprendre un peu mieux maintenant en analysant. Nous comprenons que l'activité de réceptivité regarde l'acuité. Qu'est-ce qui détermine le pâti, le fait de pâtir au niveau de l'intelligence? Qu'est-ce qui détermine la réceptivité de l'intelligence? C'est la forme et l'acuité. Voilà ce qui détermine la vie de l'intelligence au niveau réceptif. Qu'est-ce qui détermine le discernement, le jugement? Saint Thomas dira l'ipsum esse rei. L'ipsum esse rei. Je vous donne la formule de Saint Thomas. On va voir. Aristote disait le ton anthropo. Le ton anthropo est l'âme. Donc il disait l'être à l'homme. Voilà ce qui détermine le jugement. L'ipsum est serré, le ton anthropo est l'âme. L'être à l'homme. C'est très curieux ça. Et c'est très intéressant. Le jugement, le discernement touche la réalité existante. C'est presque le jugement d'existence. Presque. Presque le jugement d'existence. C'est l'ipsum et serré. C'est l'essai de l'être. Et le ton anthropo-réalisme. Donc, à l'homme l'être. Voilà ce que regarde le jugement. Que regarde le raisonnement? Le raisonnement regarde une dépendance causale. Dans l'ordre de l'intentionnalité. On saisit un ordre au niveau intentionnel. Les prémices, les premières propositions, les conclusions. Il y a toujours un ordre dans le raisonnement. Toujours. Et ce qui nous intéresse dans le raisonnement, c'est saisir un ordre nécessaire. Un ordre où on trouve un principe et une conséquence. Quel est l'objet propre de l'intuition? Alors, je vous ai dit, je crois que c'est une relation formelle, une relation. Dans toute intuition, c'est une relation, c'est une forme. Vous voyez la différence entre l'intuition et le fait de recevoir. D'un côté, c'est une forme prise dans sa simplicité, et de l'autre côté, c'est une forme prise dans le point de vue de la relation. Si vous regardez le point de vue du jugement, du discernement par code naturalité, quel est son objet propre? C'est le lien d'amour que j'ai avec cette réalité. C'est le lien qui existe entre amis. Quand un ami juge son ami, quand un ami porte un jugement sur son ami. Ce jugement se fait à l'intérieur de l'amour. Et alors, lorsqu'il s'agit de la dialectique, on peut dire encore que nous retrouvons l'ordre. Mais un ordre qui n'est plus un ordre de causalité au sens absolu, c'est un ordre que je fais moi-même. Je crois qu'on peut bien saisir ces différents aspects de la philosophie du vivant au niveau de l'intelligence. Là, je constate, je peux ajouter que ce qui caractérise la vie de l'intelligence, c'est la recherche de la vérité. La vérité apparaît avec le développement de la vie intellectuelle. Et dans cette vie intellectuelle, la vérité apparaît au niveau du discernement. La vérité dans le raisonnement est une vérité seconde. Quand on parle d'un raisonnement vrai, en réalité, c'est une vérité logique. Ce n'est pas la vérité tout court. C'est une vérité logique. Y a-t-il dans l'intuition une vérité ? Non. Si on est attentif à une intuition, l'intuition n'a pas de vérité. Y a-t-il une vérité dans la connaissance par comme naturalité ? Oui. Y a-t-il une vérité dans la dialectique ? Non. Alors c'est quand même très curieux de voir les opérations de la vie d'intelligence où la vérité apparaît ou la vérité n'apparaît pas. Étant donné que la vérité vient qualifier d'une façon très particulière ma vie intellectuelle. Ma vie intellectuelle n'est parfaite que quand elle atteint la vérité. C'est ça le propre de la vie intellectuelle. Alors, vous pourriez ajouter, mais je ne l'ai pas fait, un jugement de valeur, comme on dit aujourd'hui. Un jugement d'estimation. Il s'agit juste avant la dialectique. Un jugement de valeur, un jugement d'estimation. C'est l'intelligence qui est liée à l'imaginaire et au sensible, ou à l'inspiration. Ce serait peut-être plus juste de dire ça. Dans une activité artistique. Et ça fait partie de ces différents moments de la vie d'intelligence. Autrement dit, nous voyons que la vie de l'intelligence a des moments dans sa vie extrêmement différents, extrêmement multiples. Alors, si nous voulons entrer plus avant dans cet aspect descriptif de la vie de l'intelligence, on va se mettre à essayer de préciser dans un aspect critique comment expliquer cette réceptivité, comment expliquer ce pâti, comment expliquer ce discernement et cette capacité d'atteindre la vérité. Comment expliquer le raisonnement, l'intuition, le jugement par comme naturalité, le jugement de valeur et la dialectique? Je voudrais faire ça avec vous rapidement, et ça nous aidera à mieux comprendre, puisque ces choses-là, normalement, devraient être traitées en critique. Vous voyez, la logique, le point de vue de la philosophie du vivant, si elle critique, c'est très vite fait. C'est vrai, parce que la critique va prendre ces diverses activités, non plus en les regardant d'une façon descriptive, mais en essayant de les analyser, de les justifier. C'est le propre de la critique. Tandis qu'au niveau philosophie du vivant, je constate en effet que la première activité de réceptivité, c'est une vie de l'intelligence. Je constate que le second moment de la vie de l'intelligence, oui, c'est bien le discernement. C'est assez vite fait, la vie de l'intelligence. C'est quelque chose de très grand, très beau, mais c'est assez vite fait. Alors, nous allons maintenant, mettez ça simplement pour que vous compreniez que je peux mettre dans l'étude de la philosophie du vivant, mais c'est plutôt une attitude réflexive et critique. Et c'est important de le faire. Regardez comment nous pouvons, au point de vue critique, arriver à préciser ce qu'est cette première opération de l'intelligence, qui est l'appréhension, la réceptivité de l'intelligence. L'intelligence reçoit. Appréhension, c'est comme ça que Saint Thomas l'appelle. Appréhension. Et ça correspond vraiment à l'attitude de réceptivité d'intelligence. C'est une intelligence qui est dans une attitude de réceptivité. C'est pour ça que c'est très difficile, c'est très délicat de dire première opération, parce qu'au fond, cette appréhension, elle peut exister à l'état où l'intelligence est en recherche. Et quand vous suivez un cours, Vous pouvez comprendre, mais vous êtes incapable de redire après. Hein? Ce qui donne une très grande indulgence pour les examens. Vous recevez. Une intelligence qui n'est pas parfaite ne discerne pas encore. Elle reçoit. Elle assimile. Elle assimile, elle reçoit et elle assimile. Alors, qu'est-ce que c'est que cette première opération d'intelligence de réceptivité? Et c'est très important. Parce que vous voyez qu'avec l'idéalisme, cette opération d'intelligence, de réceptivité, va disparaître. Il n'y a plus de réceptivité. Et on comprend très bien qu'il n'y a plus de réceptivité, puisque l'intelligence commence par ses idées, comme un artiste. C'est à cause de la connaissance artistique que l'idéalisme a remplacé la philosophie réaliste. Parce que dans une connaissance artistique, c'est toujours l'idée. Tandis qu'au contraire, dans une intelligence spéculative, contemplative, on sait que nos idées, c'est la chose la plus dangereuse. Parce qu'à la place de contempler, on regarde ses idoles. Et regarder les idoles, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Vous n'arriverez jamais à contempler en regardant vos idoles.